Les poupées de musique noire.
Joe Farmer.
It don't mean a thing.
Nathalie Laporte.
If it ain't got that swing.
Jigida, kani jigi misenya, omani, kobena.
Les poupées de musique noire.
It's okay. You know, it's okay.
Oh, merci.
Vous avez tous reconnu ce classique de Sam Cooke, Change is Gonna Come, en 1964. Cette mélodie célèbre va nous permettre d'entrer dans le livre de notre invité du jour, qui a eu le courage de se plonger dans l'histoire politique et musicale de la communauté africaine-américaine de 1619 à nos jours, en étudiant l'évolution des formes de contestation depuis les chants sacrés des spirituals jusqu'à la poésie cadencée des rappeurs déterminés. Christophe Hilla-Sommers, soyez le bienvenu.
Bonjour, merci de m'inviter, je suis ravi d'être ici.
Vous avez choisi d'ouvrir votre livre « Le son de la révolte » aux éditions Le Mot et le Reste par l'évocation de l'assassinat de Sam Cooke. D'abord, pourquoi ? Et est-ce que c'est un événement symptomatique de la tragédie humaine que vivent les Noirs d'Amérique depuis des siècles ?
Je trouvais ça intéressant de prendre Sam Cooke parce qu'il est central, en fait. Parce qu'avant les années 50, être musicien noir, avoir une carrière qui touche toute l'Amérique, c'était très, très, très rare. Les artistes noirs tels Bessie Smith étaient connus dans la communauté noire, mais pas forcément par les Blancs ou par certains d'entre eux, mais ils étaient minoritaires. Et là, tout d'un coup, on a affaire à un artiste qui va conquérir toute l'Amérique et qui donc va casser les règles de la ségrégation. C'est un des premiers aussi qui va essayer de s'émanciper de l'industrie du disque, en fait, enfin, d'être indépendant en tout cas, de monter sa propre maison d'édition, son propre label en fait, et pour pouvoir s'exprimer librement et aussi toucher le bénéfice de ses œuvres, puisque beaucoup de musiciens noirs avant lui vendaient des disques mais ne touchaient pas beaucoup d'argent sur ces disques. On retrouve ça aussi chez Ray Charles, parce qu'il essayait de devenir indépendant artistiquement et économiquement. James Brown, c'est la même chose, quand il avait commencé à posséder des radios qui sont des moyens de communication extrêmement puissants. Oui, on a toujours mis des bâtons dans les roues aux artistes noirs américains, en tout cas à cette époque-là, dans les années 60, pour leur éviter d'avoir une indépendance de fait économique, de parole et politique.
Votre livre est-il partisan ou juste factuel ?
Alors c'est très compliqué de répondre à cette question dans le sens où je ne pense pas que l'histoire soit neutre. L'un des plus beaux livres d'histoire que j'ai lu, c'est l'autobiographie d'Howard Zinn, et qui justement, il explique que l'histoire doit être engagée, qu'elle doit être sérieuse, qu'elle doit être documentée, qu'elle doit être sourcée, mais qu'elle doit être engagée, qu'elle doit servir justement à faire évoluer l'humanité dans le bon sens. Donc je pense que mon livre est engagé, mais j'ai essayé d'être le plus sourcé, le plus rigoureux avec mes sources pour éviter toute polémique et toute erreur.
Tout au long de votre récit, vous insistez sur l'appropriation, voire l'exploitation de la culture noire par l'Amérique blanche. Est-ce que c'est aussi flagrant, définitif et incontestable que vous le dites ?
En tout cas, en travaillant mes sources, c'est-à-dire à la fois les études d'historiens, d'anthropologues, de musicologues, mais aussi toutes les biographies, les autobiographies de musiciens, qu'ils soient de soul, de hip-hop, de jazz, de funk, etc., Oui, c'est un fait. Et c'est pas un hasard si, encore une fois, Sam Cooke cherche à être indépendant. C'est pas un hasard si Dr. Dre a très tôt cherché à être indépendant. C'est, encore une fois, pour éviter de se faire spolier. Alors là, j'ai pas de citation en tête, mais je sais que Miles Davis a beaucoup, beaucoup critiqué cet état des choses. En tout cas, oui, ils sont très, très nombreux, les musiciens noirs, à avoir dénoncé ça.
Quand Elvis Presley adapte les œuvres de musiciens noirs, est-il coupable de plagiat ? Participe-t-il au pillage de la culture africaine-américaine ? Après tout, il est né dans le sud des États-Unis, où il a entendu depuis sa naissance ses chants et ses mélodies blues interprétées par des artistes noirs.
Alors, les artistes, parce que tout le monde a le droit de faire la musique qu'il veut, en fait. Je veux dire, la musique, c'est quelque chose d'inclusif, de très, très démocratique. Un yakout de Sibérie a le droit de jouer du jazz. C'est pas parce qu'il est yakout en Sibérie. Le problème, c'est quand l'industrie du disque et, on va dire, la culture dominante raconte une autre histoire. Et Elvis Presley, il a toujours respecté les musiciens noirs. Et d'ailleurs, il l'a crié haut et fort. Mais en fait, je suis beaucoup moins bon qu'eux, en fait. Le problème, c'est toute l'historiographie blanche qui va en faire l'inventeur du rock'n'roll, le mettre au-dessus de toutes ses inspirations et d'invisibiliser les véritables créateurs de cette musique. Je n'ai rien contre Elvis. Et Elvis était respecté énormément, cette musique-là. D'ailleurs, sinon, il ne l'aurait pas faite, je pense.
Donc, Sam Phillips, le producteur de Sun Studio, serait finalement le coupable, celui qui a rendu Elvis Presley populaire et qu'on a après caricaturé.
Je ne pense pas qu'il soit le seul coupable, en fait. Le coupable, ce n'est pas des individus, je pense que c'est la société américaine en tant que telle. C'est une société qui est raciste. Mais en fait, cette société donc, s'est construite sur l'exploitation des Noirs depuis le début et ça a perduré et ça perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Toute personne qui grandit dans cette société est influencée par ce climat, en fait. Ce qu'il faut, c'est arriver à prendre du recul, s'en rendre compte et essayer de le déconstruire.
À quand remontent les premiers échos de la contestation, de la fronde sociale ?
Mais je pense que ça remonte à depuis l'esclavage, en fait. Mmh. Justement, ça m'avait surpris parce que je ne pensais pas que c'était autant. Il y a tous les ans, au moins, une révolte à partir de 1619 jusqu'à la fin de la guerre de sécession. Il y a des révoltes partout, ou des tentatives de révolte, ou des conspirations. Et puis, je vous épargne tous ceux qui s'enfuient au Canada, dans le Nord. Et puis, la révolte la plus fameuse, c'est celle de Nat Turner en 1831, qui a fait extrêmement peur à la communauté blanche de Virginie. Et d'ailleurs, la répression derrière va être ultra violente, ça va être quelque chose d'effroyable.
Vous précisez dans votre livre que 11 à 15 millions d'Africains ont été déportés vers les Amériques de 1525 jusqu'à 1867 et ont emmené avec eux des coutumes et des traditions ancestrales qui ont continué à irriguer la culture africaine-américaine jusqu'à nos jours. Que perçoit-on encore de ce patrimoine africain originel dans les œuvres et précisément les musiques d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a résisté à l'érosion du temps ?
Alors, je pense qu'il y a déjà la forme de construction de beaucoup de morceaux qui sont en question-réponse, où ce sont un chanteur ou plusieurs chanteurs qui répondent à des chœurs. Donc, il y a vraiment un dialogue. Il y a bien évidemment les polyrythmies. Ça, c'est quelque chose de très, très important parce que c'est vraiment... Alors, on parle du ring shot. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, ce sont des danses rituelles qui sont issues de danses ouest africaines qu'on retrouve autant en Sénégambie que dans le Cameroun actuel, etc. Et qui vont perdurer notamment dans le christianisme africain, afro-américain dans l'occurrence. Donc, les polyrythmies, les questions-réponses. Et puis, cette critique sociale, en fait. On va prendre l'exemple du griot, qui était à la fois un historien des communautés orales, qui critiquait le climat social de tel ou tel village, de tel ou tel royaume d'Afrique de l'Ouest. Et c'est ce qu'ont fait les bluesmen, c'est ce que font les rappeurs. Il y a toujours cette idée de témoigner des conditions, encore une fois, de vie des Noirs américains, et en même temps aussi de célébrer une culture, de célébrer, de l'entretenir, mais pas de façon figée, elle est toujours en renouvellement. En fait, il n'y a qu'une seule musique noire américaine, elle ne fait que évoluer. Le jazz, le funk, la soul, le hip-hop, le gospel, le blues, c'est une seule et même musique. En fait, c'est comme un arbre avec des branches qui n'a eu de cesse de pousser. Il n'y a pas cette volonté de figer, d'institutionnaliser, de mettre dans un musée, dans une vitrine, une musique, comme c'est souvent le cas en Occident.
Il y a une constante dans votre livre, c'est la rébellion des Africains-Américains face à un pouvoir blanc tout-puissant et cela s'exprime dès les premiers chants Negro Spirituals. Vous citez notamment la chanson Steal Away qui transmettait un message codé, pas uniquement religieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Alors ça, c'est au moment de la pire période de l'esclavage, c'est-à-dire le 19e siècle. Quand on ne connaît pas l'histoire de la déportation des Africains aux États-Unis, on pense toujours que c'est très dur au début, que petit à petit ça devient de moins en moins dur pour aboutir à la guerre de sécession, que tout ça devait soi-disant être inévitable. Ce sont les adeptes du gradualisme, comme on dit, qui s'imaginent que tout ça était inévitable. Pas du tout, et au contraire, l'esclavage s'est durci à partir du 19e siècle, du fait que la société américaine du Sud va se focaliser sur une seule agriculture, celle du coton, qui est très très rentable, mais il faut énormément de main-d'œuvre, donc ça va accélérer la déportation d'Africains, ils vont être de plus en plus nombreux, de plus en plus maltraités, et leurs frères et sœurs, qui ont réussi de leur côté à rejoindre le Canada, vont organiser en fait tout un système de libération, en fait, qu'on appelle le chemin de fer souterrain, et dont la figure de proue de cette organisation, c'était une femme remarquable, une ancienne esclave, qui n'hésitait pas à revenir dans les États du Sud qu'elle avait pourtant fui pour venir libérer ses frères et sœurs. Et elle s'appelait Harriet Tubman. Elle chantait un spiritual pour attirer l'attention d'esclaves qui étaient sur le point de partir. En fait, tout ça était vraiment, c'était toute une organisation. La musique servait de moyen de communiquer indirectement pour pouvoir s'enfuir, en fait.
Je vous propose, Christophe Hillasomers, d'écouter une version émouvante de Steal Away par Mavis Staples, immense chanteuse et activiste. Elle est ici en compagnie du pianiste et organiste Lucky Peterson.
Steal away, steal away, steal away to Jesus. Steal away, steal away home. I ain't got long to stay here. My Lord, He calls me. He calls me by the thunder. The trumpet sounds within my soul. I got long to stay here.
Steal Away par Mavis Staples et Lucky Peterson en 1996. Christophe Hillasomers, votre livre Le son de la révolte s'appuie sur les déclarations de nombreux orateurs, auteurs, musiciens, chanteurs, et l'un d'eux, Amiri Baraka, revient plusieurs fois dans votre récit. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui il est et pourquoi il est l'un des fils rouges de votre ouvrage?
Alors donc c'est un activiste qui s'appelait au départ
Leroy Jones,
exactement, et qui a changé son nom et qui a écrit un des livres précurseurs dans la recherche sur les musiques noires américaines, Le peuple du blues. Vraiment, c'est un livre qui n'a pas pris une ride encore aujourd'hui, et à l'époque quand il est sorti, donc au début des années 60, c'était révolutionnaire parce que personne n'avait abordé encore l'histoire de la musique noire américaine sur d'un point de vue socio-anthropologique et politique, comme il l'a fait, en fait. Et c'est un de mes livres de chevet quand j'ai travaillé sur l'écriture de mon propre livre.
Nous avions eu la chance de l'accueillir il y a 20 ans dans cette émission, et son propos sur les conséquences de l'esclavage nous avait profondément marqué.
From the time we were put in the bottom of that boat, we started singing, whatever the form was.
À partir du moment où nous avons embarqué sur ces bateaux, nous avons commencé à chanter. Quelle que soit la forme d'expression, le message a toujours été le même. Laissez-moi sortir, laissez-moi tranquille, cessez de vouloir transformer ma vie. Ce furent toujours les mêmes mots. Que vous preniez le tout premier chant, avant même que nous soyons en contact avec les Américains, nous chantions déjà le désespoir dans le dialecte local, puis dans un langage afro-américain. Depuis toujours, nous chantons la contestation. Comment voulez-vous que nous ayons des paroles positives? Quand on vous pourrit la vie depuis des lustres, comment être optimiste et voir les choses du bon côté? On ne sait pas ce que c'est que le bonheur. Quand votre existence, c'est l'esclavage, vous ne décidez pas de protester, vous protestez instinctivement. Ce que je veux dire, c'est que quel que soit votre mode d'expression, le message reste le même. Cette situation est injuste et nous sommes des êtres humains. Ça n'a jamais changé.
This is unjust and we are human beings. It's always that.
Christophe Hila Somers, diriez-vous, comme Amiri Baraka, que rien n'a changé? Il y a eu tout de même le mouvement Black Lives Matter depuis, non?
Il est en mouvement, et heureusement qu'elles sont là, ce sont des femmes noires incroyables qui ont monté ce mouvement. Enfin, c'est une critique de la société américaine capitaliste, sexiste et raciste, très pointue, très documentée. Et surtout, elles ont réussi à éveiller de nombreux blancs, ce qui n'était pas forcément le cas au moment des droits civiques. On a toujours cette image des droits civiques de nombreux blancs qui accompagnent les noirs dans les manifestations aux côtés de Martin Luther King. C'est totalement faux, en fait. Ils étaient très, très minoritaires. Ce qui n'est pas le cas avec Black Lives Matter, en fait, où elles ont réussi, justement... Alors, est-ce que c'est parce que c'est les nouvelles générations et qu'elles ont des moyens de s'informer beaucoup plus vastes que les hommes et les femmes des années 60? Je ne sais pas. Mais effectivement, je trouve qu'il y a un mouvement qui est très, très positif. Les choses changent. Enfin, la lutte évolue. J'ose espérer qu'elle va vers le mieux, même si je ne suis pas très optimiste, surtout à la veille des élections américaines. C'est-à-dire que le système s'est adapté. C'est-à-dire qu'il est plus malin. C'est-à-dire qu'il est plus filou, on va dire, plus... moins frontal qu'il l'était du temps de l'esclavage ou du temps de la ségrégation dans le Sud. Le racisme est plus hypocrite aujourd'hui, mais il est encore bien là, malheureusement.
Est-ce que les styles de musique portent des messages différents? Est-ce qu'un bluesman livre une parole semblable à celle d'un rappeur ou d'un musicien de funk?
D'une certaine façon, le fond est le même, mais la forme change. C'est-à-dire qu'un bluesman de, on va dire, des années 10, des années 1900... Il s'adresse à sa communauté où il parle pour lui-même, enfin il raconte son histoire, mais qui va très vite devenir l'histoire de la communauté en fait, parce que tout ce qu'il raconte, la plupart de ses auditeurs le vivent aussi en fait, donc il y a une espèce de communion. C'est pas la même chose avec le funk où il y a une revendication afrocentriste très forte, revenir aux racines polyrythmiques de la musique noire américaine, ne pas séparer l'esprit du corps et la mise en valeur du corps et de la danse et de la sexualité comme quelque chose de beau, comme quelque chose de militant et pas comme quelque chose de sale et honni. Et les rappeurs, du coup, si on prend vraiment, alors on va prendre le gangsta rap de Los Angeles des années 90, là, ça se rapproche du blues dans le sens où on décrit des conditions sociales, mais qui sont finalement certainement encore plus dures qu'elles l'étaient en 1900, parce que vivre à Compton ou à Watts dans les années 90 et être noir et prolétaire dans ces quartiers, mais c'est des conditions de vie effroyables et dues à la police de Los Angeles qui se comporte comme une, à la fois une armée d'occupation, à la fois comme des mafieux et puis, j'ai presque envie de dire, même si le mot est galvaudé, mais comme une milice fasciste en fait, voilà.
Voici un brûlot signé George Clinton. Il s'agit de Chocolate City en 1975, dans lequel le roi du P-Funk imagine une maison blanche dirigée par Mohamed Ali.
Oh, what's happening, CC? They still call it the White House, but that's a temporary condition too. Can you dig it, CC? To each his reach, and if I don't cop, it ain't mine to have. But I'll be reaching for you, 'cause I love you, CC. Right on. There's a lot of chocolate cities around. We've got Newark, we've got Gary. Somebody told me we got L.A. And we're working on Atlanta. But you're the capital city.
Daddy loves you.
Get down.
Daddy loves you.
Moving in on you.
Daddy loves you.
Can't you feel my breath? Up around your neck. Hey, CC, they say you jive and game and can't be changed, but on the positive side, you're my piece of the rock, and I love you, CC. Can you dig it? Hey, we didn't get our 40 acres and a mule, but we did get you, CC. Yeah.
George Clinton and Parliament, c'était Chocolate City en 1975. Christophe Hila Somers, nous sommes obligés de faire des bonds dans le temps car votre ouvrage couvre 4 siècles de musique et de lutte sociale africaine-américaine. Parlons de rap. Est-ce que c'est une révolution majeure dans l'épopée des musiques noires ?
Je pense que c'est une révolution autant que l'a été le bebop, le funk et la soul. Qu'on prenne Ray Charles ou Dr. Dre, ce sont des révolutions en fait, ce sont des changements. C'est-à-dire que la musique noire évolue vers autre chose, elle avance en fait. Je trouve que l'histoire du hip-hop en général est très très intéressante parce que comme souvent en fait c'est une culture populaire, une culture du prolétariat noir américain en l'occurrence, comme toutes les musiques noires américaines, et qui naît dans le Bronx, qui est un quartier new-yorkais au début des années 70, qui est dans un état mais d'abandon des services publics. Et notamment ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de rappeurs racontent en fait... Une des choses qui a été enlevée dans les écoles publiques du Bronx, ce sont les cours de musique. Aux États-Unis, il y a toujours une culture très forte d'éducation à la musique et les élèves américains ont plus accès à des instruments que par exemple les Français. Le problème, c'est que donc, dans le Bronx, on va, pour des raisons de coupures budgétaires qui sont liées à l'entrée dans l'ultralibéralisme avec la présidence de Nixon et qui bien évidemment touche les classes populaires et particulièrement les classes populaires noires et les classes populaires hispaniques. Donc tous ces départements d'études musicales dans le système scolaire vont disparaître. Et donc des prolétaires noirs qui avant pouvaient apprendre à jouer d'un instrument ne vont plus pouvoir le faire. Bien, les premiers rappeurs disent « mais en fait notre instrument, on s'est servi du seul instrument qui nous restait, c'est-à-dire la platine des parents en fait. » Et comme la plupart des parents achetaient énormément de disques, qu'ils avaient des collections de vinyles incroyables, où se mélangeaient à la fois Nat King Cole, mais aussi James Brown, mais aussi Sam Cooke, Aretha Franklin, etc. Donc ces gamins, parce que c'est des gamins, on oublie ça, on imagine déjà des jeunes adultes avec une culture musicale et une indépendance très poussée, mais non, ce sont des jeunes gens, des adolescents qui récupèrent les platines de leurs parents, qui récupèrent les disques de leurs parents et qui vont faire danser dans la rue, dans ces rues complètement à l'abandon, où les poubelles ne sont plus ramassées, où l'asphalte n'est plus réparé. Enfin, quand je dis qu'il n'y a plus de service public, c'est que vraiment c'est une volonté d'État, il n'y a plus de service public dans le Bronx. Et donc du coup, ils vont mettre en valeur leurs conditions sociales à travers la danse et la musique, en utilisant en fait une façon de s'exprimer qui existait déjà dans la communauté noire depuis très longtemps, mais ils vont pousser la chose beaucoup plus loin en rajoutant du rythme derrière, avec les platines justement, etc. Le rap en fait, c'est-à-dire qu'il y a une forme de chant parlé, parce qu'on dit toujours qu'il y a peu de mélodies, mais en fait quand on écoute... Tupac Shakur, mais il a une mélodie naturelle dans sa voix en fait, c'est-à-dire qu'il y a une mélodie dans sa voix, même s'il rappe, donc ce n'est pas seulement que de la rythmique, il y a aussi du mélodique là-dedans. Je me suis un peu éloigné de la question originelle, mais effectivement, le rap, c'est la dernière grande révolution musicale de l'histoire de la musique noire américaine, et j'ose espérer qu'il y en aura encore d'autres.
Diriez-vous que la chanson All Right de Kendrick Lamar est un discours positif, combatif ?
Combatif, c'est sûr, vu que c'est devenu l'hymne de Black Lives Matter. Et positif, oui, parce que c'est ça que je trouve bien chez les fondatrices de Black Lives Matter. Quelque part, elles se rapprochent de Martin Luther King, c'est-à-dire qu'elles ont une vision... En fait, il ne faut surtout pas devenir aussi inhumain que les personnes contre qui on lutte, en fait. Parce que sinon, c'est perdu d'avance, en fait. Si on se comporte comme le bourreau, comme l'exploiteur... On perd de la crédibilité, en fait. Et donc, oui, il y a un côté positif, parce qu'on a envie de les suivre, parce qu'en plus, encore une fois, le discours est très construit. Et que oui, moi, je préfère suivre quelqu'un qui m'explique les choses avec bienveillance que quelqu'un qui me donne des leçons. Donc forcément, oui, c'est positif, ouais.
Voici ce titre positif paru en 2015 de Kendrick Lamar. All Right, extrait de l'album To Pimp a Butterfly.
All's my life I has to fight, nigga. All's my life, hard times like, yeah, bad trips like, yeah, Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up, but if God got us, then we gon' be alright,
right, nigga, we gon'
And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, now let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this what I like, Lord knows. 20 of them in my Chevy, tell them all to come and get me. Reaping everything I sow, so my karma come in heaven. No preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster in silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my vices all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before.
nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go?
We're gonna be alright, Kendrick Lamar, en 2015. Christophe Hilas-Sommers, j'aimerais à présent vous faire entendre les propos d'un artiste que vous citez plusieurs fois dans votre livre, Le son de la révolte. Il s'agit d'Archie Shep. Et l'univers du rap ne lui est pas étranger.
Man, I be rapping. I started rapping in 1966.
J'ai commencé à faire du rap en 1966. J'étais là aux côtés de groupes comme les Last Poets.
I mean, rap is c'est un mot comme Coca-Cola ou comme Marlboro, Kleenex. C'est un mot pour vendre, comme jazz, pour vendre la musique. Et ça n'a rien à voir avec la réalité. Pas du tout. Je suis un des premiers rappeurs, mais des rappeurs, surtout des Noirs, ils ne me connaissent pas. C'est la raison, et la raison, c'est en fait le capitalisme qui garde des Noirs dans un certain espace, un certain coin. Moi, je suis très politique, et c'est bien connu. Il y a des gens ici, quand ils pensent de la rébellion des étudiants, ils pensent de ma musique. Je suis un nègre qui menace, parce que des nègres, ils disent jamais qu'est-ce qu'ils pensent. On attend la révolution.
C'était le saxophoniste Archie Shep dans L'épopée en 2017. Quel regard portez-vous sur ce personnage, Christophe Hilas-Sommers ?
C'est certainement l'un des jazzmen les plus engagés, enfin, à l'avant-garde de l'engagement politique. Puis j'aime beaucoup son œuvre. Moi, j'aime beaucoup Attica Blues, qui me plaît énormément, de même que Fire Music, avec cet hommage à Malcolm X dessus. Et puis cette réécriture de Girl of Ipanema, que je trouve fabuleuse. Bah, il est très proche du discours des Black Panthers, en fait. Donc c'est un discours qui me parle. Et puis il est très proche, effectivement, parce que là, du coup, dans la citation, il parle des Last Poets, toute cette mouvance... Très anarcho-gauchiste, j'ai envie de dire, de la musique noire américaine du début des années 70, moi qui me parle autant musicalement que politiquement. Ouais.
Vous avez mis 7 ans à écrire ce livre, donc félicitations Christophe Hilas-Sommers.
Ben, merci à vous de m'avoir invité, en tout cas, j'étais ravi de dialoguer avec vous.
Si nous nous quittions avec Stevie Wonder, voici le tout dernier single qu'il destine à la campagne de Kamala Harris, Can We Fix Our Nation's Broken Hearts, qui veut dire... Pouvons-nous panser les plaies d'une nation au cœur brisé?
Can we fix our nation's broken? Can we fix our nation's broken heart and leave a better world behind? 'Cause if we listen to different thoughts and point of views, all my brothers and sisters, we don't have to lose humanity. We're family. So can we please fix our nation's broken heart? Children marching on the boulevard, tears are streaming down their face. Oh, the tension in the air is so bizarre. Love is gone without a trace. People pushing and shouting, fighting through the haze, and all the sadness, madness, help me take away the pain. It's gotta change, this can't stay the same. So tell me please, can we fix our nation's broken heart? Poverty and homelessness, can we do away with this? All we need is to begin.
Can we fix our nation's broken heart? C'était Stevie Wonder en 2024. Merci beaucoup Christophe Hilas-Sommers. C'est au plaisir vraiment de converser à nouveau avec vous.
Eh ben, merci pour cette invitation et ben, j'espère une prochaine, oui, avec grand plaisir.
L'émission du jour était réalisée par une femme de conviction, Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal. Broken heart.